Alors aujourd'hui, sur 8ème Air, la radio qui inspire, je reçois chez vous, pour la première fois, mon frère, celui qui m'a tout appris du corps à corps, des accolades fraternelles. Aujourd'hui, je reçois Xavier. Xavier, bonjour.
Bonjour Franck.
Xavier, me permettez-vous de vous vouvoyer ?
Oui, bien sûr.
Mon petit doigt m'a dit que vous étiez un homme très occupé, mais que vous aviez bien voulu prendre un petit peu de temps avec moi pour discuter d'un sujet qui vous a permis de grandir, de vous construire et de vous réjouir de qui vous êtes. Ce sujet, c'est le don de dyslexie. Alors, en quoi est-ce un don pour vous, Xavier ?
C'est un don parce que, je l'ai découvert sur le tard, c'est un mode de fonctionnement qui est différent, qui permet de travailler comme sur une troisième dimension, ce que ne savent pas faire les non-dyslexiques. Et donc, voilà, c'est une capacité, c'est une aptitude que nous avons, hein, que j'ai, et que d'autres, bien d'autres non, qui permettent d'aborder les choses autrement, par des modes de vue, des visions, des plans différents. Et donc, voilà, c'est une capacité que les non-dyslexiques ne peuvent pas acquérir, alors qu'un dyslexique peut, après apprentissage, après un, peut fonctionner, réussir à fonctionner comme un dyslexique. C'est vraiment une troisième dimension. Je le ressens comme ça, comme même plus que troisième dimension. Oui, c'est troisième dimension. Ça donne du volume à la capacité de chercher, de sentir, de trouver.
C'est vrai que, en fait, moi j'avais découvert donc cette trois dimensions grâce à vous, parce que je savais que les personnes qui avaient justement. On disait il est dyslexique avec une étiquette. Et que moi, je pensais que c'était un handicap, et que grâce à vous, en fait, j'ai pu avoir une autre vision, justement, de ça, et être envieux, en fait, de ce don que moi, je n'ai pas, et qui, voilà, je me dis, mais mince, c'est formidable, tout ce que je rate de ne pas avoir ça, et vraiment de vous avoir vu, justement, peut-être pas l'utiliser, parce que je pense que je ne suis pas sûr de l'avoir vu, mais de vous avoir vu vivre vraiment ce don-là, voilà, je me dis quand même j'ai tout un pan de la vie là, qui est une grande frustration pour moi de ne pas avoir ce don là. Est-ce que vous avez des exemples comme ça concrets à me donner ou à nous donner pour montrer quel est ce don justement et qu'est-ce que ça apporte?
Oui, j'ai un exemple précis dans quelque chose de bidimensionnel, enfin vraiment l'informatique. Où je me souviens, pour une banque, une société bancaire pour qui je travaillais, après, pour la prévision, l'installation d'une nouvelle version d'un logiciel, après 6 mois de tests, recettes informatiques, recettes utilisateurs, avec 100 utilisateurs, on décide de migrer sur la nouvelle version, on passe le week-end à tout migrer les données, voilà, 24h sur 24, voilà. Le lundi matin, on ouvre les tuyaux. Il y a 250 utilisateurs qui se lancent sur la machine. Et au bout d'une heure, la machine, une heure et demie, la machine à plat, panique, plus personne peut. Il n'y a plus de temps de réponse, catastrophique, plus personne ne peut travailler. Alors on se retourne vers le service informatique. En parallèle du service informatique, un comité de direction se met en place pour voir ce qu'il faut faire, parce que c'est vraiment impossible. Il y a 200-300 utilisateurs derrière qui sont bloqués, les clients, enfin voilà. On cherche, on regarde, les informaticiens regardent, moi je commence à regarder, et puis d'un seul coup, la décision tombe, la direction dit retour arrière. On revient en arrière, et donc on passe à l'ancienne version, et donc on arrête tout. J'ai eu cette information, et moi je dis non, attendez, laissez au moins une heure et demie, 2 heures pour retrouver, parce que sinon on repart sur 6 mois de demain, et puis on ne pourra pas se remettre en condition avec 250 utilisateurs sur la machine pour reproduire le problème, mais on ne le retrouvera pas comme ça. Donc attendez. Donc on décide d'attendre, et puis moi je regarde. Alors j'avais pas de méthode particulière, j'ai regardé, j'ai laissé les utilisateurs travailler, puis j'ai regardé, puis d'un seul coup je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient anormales sur la consommation de la CPU de la machine. Et puis j'ai gratté, j'étais en lien avec les Anglais qui étaient éditeurs du logiciel, Et puis, d'un seul coup, voilà, j'ai retrouvé quelque chose qui était récurrent et des nombres, alors c'est des trucs techniques, mais c'est des nombres d'accès, des lectures d'accès aux fichiers, où je trouvais que c'était exorbitant. Donc là, je regarde, je vois le programme, je descends, et puis j'appelle les Anglais, je leur dis, ben, tel endroit, il y a un problème et tout, et puis ils regardent, et puis ils s'aperçoivent que c'est un programme qui a été modifié, qui a été mal modifié, qui était buggé, et dont on ne pouvait pas se rendre compte en test simple. Sur ça. Donc ils corrigent le programme, ils nous le renvoient, on le réinstalle,
et tout, bingo, va bien.
Et tout va bien, les 250. Voilà, c'est, je pense que voilà, on était une équipe de 7-8 informaticiens, et je pense que les autres étaient plus certainement pas dyslexiques, en tout cas dans un moule qui était bien formé, ils trouvaient pas. Alors que là, bon, moi je suis arrivé. Je ne peux pas dire aujourd'hui comment, mais je ne suis pas passé par les chemins classiques. Oui. Et oui. Je pense que je suis passé par cette troisième dimension, ouais. Enfin, ouais. C'est entre autres.
Ouais.
Et c'est ça qui a fait que...
Ouais. Et c'est magique.
Oui,
ça fait. Moi, je trouve ça magique.
Ça fait comme magique, oui, ouais. Ça fait comme magique. Ouais. C'est vrai que... Voilà, ça, c'était le gros exemple, bien, à d'autres endroits ça m'arrivait aussi, mais voilà, ça a été flagrant et éviter une
catastrophe.
Bah, ouais, une catastrophe, oui.
Au moins commerciale.
Commerciale et puis financière, parce que repartir sur 6 mois de test, oui. On n'aurait pas trouvé la solution.
Oui.
On n'aurait pas pu détecter ce problème-là sur un groupe d'utilisateurs de 5 personnes. On n'aurait rien vu du tout. Donc, ouais.
Bon, très bien. Alors, du coup, ce don que vous avez, et moi j'insiste vraiment sur le don, parce que d'ailleurs il y a un livre qui s'appelle, rappelle-moi,
Le don de dyslexie.
Le don de dyslexie.
Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai découvert sur le tard, qui a permis de basculer sur de handicap à don,
oui.
Et,
oui.
Et à revaloriser,
oui.
Et à, parce que c'est vu dans notre société et encore maintenant. Et enfin,
On les appelle les 10 d'ailleurs, oui. Tous les 10.
Oui. Alors il y a différents niveaux de dyslexie, bien évidemment, mais c'est toujours vu comme un handicap dans le moule le scolaire, parce que bien évidemment, lors de ma scolarité, ça a été juste l'horreur, parce que je ne rentrais pas dans le moule de l'apprentissage, j'apprends autrement. Alors je ne sais pas si c'est que le don de cette dyslexie-là qui fait que j'apprends autrement, mais je ne sais pas apprendre sur un cahier, sur un papier, assis sur une chaise et apprendre par cœur quelque chose, ça je ne sais pas faire. Voilà, donc je pense que pour moi c'est un rapport avec cette capacité-là. Et donc, comme on ne rentre pas dans le moule, on est bien évidemment des handicaps, on est classifié comme mauvais à l'apprentissage, nul, enfin voilà, et donc c'est vraiment très 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 valorisant.
Dans le livre d'ailleurs du même auteur, j'étais en train de lire tout à l'heure, là, Ronald Davis, qui a écrit le livre Le don de dyslexie, je lisais aussi justement un exemple d'un enfant qui avait compris par une expérience qu'il était là-dedans et qu'il avait pu, donc c'était une expérience avec un cercle et une ligne continue qu'on fait tourner, donc en fait ça donne une espèce d'impression de mal de mer. Et en fait, son père était avec lui, il a fait la même expérience et il a eu ce mal de mer aussi, ce père. Et en fait, son fils a pu expliquer à son père que ce n'était pas par flémardie, j'ai envie de dire, qu'il n'avait pas lire, c'est que quand lui lisait, ça lui faisait cette impression-là. Et son père, d'un coup, a changé complètement de vision par rapport à son fils. Et voilà, c'était une grande découverte. Et j'imagine que... tout à l'heure, je vais parler, justement, dans la présentation, je vais parler de vous réjouir de qui vous êtes, peut-être aussi, grâce à cette découverte-là. Vous l'aviez peut-être déjà, mais...
Oui, non, ça m'a permis beaucoup de me revaloriser par rapport à la dévalorisation que j'avais pu avoir des proches et de moi-même en direct. En conséquence, ça m'a permis de me voir d'un autre œil et de me revaloriser, vraiment.
Bon.
Un grand cadeau de la vie d'avoir appris ce don de dyslexie.
Oui, c'est ça. Et donc du coup, est-ce que je peux me permettre aussi de parler de votre suite, de votre changement d'horizon professionnel?
Oui.
Donc depuis, vous avez changé de métier.
J'ai changé de métier. Je me suis reformé. Voilà. Et à la cuisine. J'ai fait un CAP de cuisine et j'ai décidé d'ouvrir un restaurant.
Voilà.
Et j'ai ouvert un restaurant et voilà, je suis dans ce monde où mon manque de disponibilité m'a...
C'est ça. Surtout parfois il y a des livraisons.
Voilà, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà.
Et alors, donc cette suite-là donc fait partie du fait que vous ayez pu vous revaloriser justement, ou c'est que pour vous c'est indépendant. Ouais. Moi j'imagine qu'il y a un lien quand même.
C'est dans le lien de faire des choses qui me correspondent, oui. Donc j'ai envie et avec quoi et avec qui aussi je prends du plaisir. Ouais. Donc je pense que ça va dans le même sens de savoir qui je suis, d'être de plus en plus en lien avec qui je suis réellement, moi, et ce que j'ai envie de faire.
C'est ça.
Avec tout plein d'autres choses complexes qui complexifient toute l'histoire. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment un lien.
Mm. Et vous allez loin d'ailleurs dans ce que vous avez envie de faire, parce que en plus, vous ne cuisinez pas une cuisine très classique qu'on peut voir partout, mais justement, vous avez beaucoup de créativité dans et les produits, et la manière de les cuisiner, et la manière de les associer, beaucoup dans les associations de goût.
Oui. Voilà. Ça, c'est pas moi directement qui le fais, mais c'est vrai que moi, j'ai une grande exigence dans la qualité des produits, le choix des produits, l'histoire qu'il y a racontée autour des produits. Mais je pense que c'est lié aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette troisième dimension. C'est que ce qui m'intéresse, c'est pas tant... le lien que je fais, c'est que je ne sais pas apprendre en direct comme ça sur un papier, mais je vais savoir apprendre en faisant des mouvements, en bougeant. Autrement, les choses vont rentrer. Et je vois que, en vous le disant, je me rends compte que j'aime faire la même chose au niveau des produits. Et je vois que simplement apporter une assiette à un client et lui poser l'assiette aussi bon que le produit soit, ça ne m'intéresse pas. Plus que ça, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter le produit et de raconter une histoire autour. Mmh. Voilà. Ou avant, en lui montrant la carte, ou au moment où ça arrive, de raconter l'histoire. Et pareil, je vois que ça accroche aussi les gens différemment. Sur d'un seul coup, les cornichons qu'ils ont dans leur assiette, c'est les seuls cornichons français, les derniers cornichons français, il n'y en a plus d'autres, les autres, c'est indien. Voilà. Et d'un seul coup, ça tilte, voilà, et voilà, ils retrouvent, et c'est aussi sur des goûts comme ça, ils retrouvent des vieilles références aux grand-mères, voilà, et c'est assez étonnant de voir. Et je trouve que ça fait partie de cette capacité qu'on a tous à apprendre sur plusieurs dimensions, mais je pense que ça, c'est quelque chose que moi j'ai développé plus et que je mets plus en avant là, dans ce projet-là. Mmh.
Et j'aime beaucoup justement votre approche justement de ce restaurant. D'ailleurs, je vais en parler, il s'appelle Restaurant Case.
Oui.
Et qui est, redites-moi l'adresse.
44 rue Joseph de Maistre, dans le 18e.
Voilà, donc j'en profite vraiment pour faire un peu de publicité parce que je trouve que c'est un restaurant que j'aime beaucoup l'ambiance et puis je vous aime, Xavier, en même temps. Donc,
merci.
Donc voilà. Donc. Voudriez-vous dire autre chose sur le sujet de la dyslexie de la dyslexie. Justement, j'ai bien aimé justement que vous fassiez, vous rameniez, parce que moi je vous ai amené vers le restaurant, mais j'ai bien aimé que vous rameniez justement le restaurant avec votre don et que vous en parliez. Est-ce que vous vouliez partager autre chose par rapport à ce don? Peut-être pour les parents qui ont des enfants, comment peut-être détecter, par exemple, est-ce que vous sauriez détecter un enfant qui a ce don-là? Alors je sais qu'il y a les livres pour
oui,
ça.
Oui, il y a les livres, mais
votre sensibilité à vous.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est alors pas directement attaché au don de dyslexie, mais je pense que vraiment, si c'est pour parler aux parents, ça serait de leur dire de faire confiance à leurs enfants, à l'être humain qu'est les enfants, au même titre que qu'il y a des adultes, et qui savent si on les laisse parler, si on les écoute, qui savent comment faire pour apprendre, qui savent comment faire pour... Et c'est vrai que les contraintes à vouloir rentrer dans un moule, les vouloir, là, automatiquement, ça... Donc vraiment, moi, j'encouragerais à laisser le plus possible le champ à l'enfant pour dire comme il le peut avec les outils qu'il a, avec l'un. C'est un chemin qui n'est pas facile à faire, parce que c'est, bien évidemment, ça renvoie à sa propre histoire, et puis c'est partir dans l'inconnu.
Oui.
Et donc ça, c'est vraiment un grand cadeau. Et moi, quand ça m'arrive de parler, d'entendre des gens qui disent oh, « je suis dyslexique » ou « mon fils est dyslexique », et je le renvoie toujours sur ce don, ce livre et ce don de dyslexie. Vraiment, et je pense qu'on a tous une manière de fonctionner différente, alors avec la dyslexie ou avec d'autres choses, mais je trouve que c'est important d'ouvrir les portes et de laisser les gens trouver les enfants, les accompagner là-dedans, dans leur... dans leur mode de fonctionnement, dans leur histoire, dans leur manière d'apprendre, et leur faire confiance à la vie, et faire confiance. Oui, peut-être que mon fils ne sera pas HEC, ou je ne sais pas quel, mais il sera heureux dans ce qu'il fera, et comme il le fera, et si un jour il a décidé de passer un examen, ou de il se donnera les moyens, il le fera. Quoi.
Oui, c'est ça.
J'ai un exemple précis avec ma fille, voilà, mais...
Et j'ai aussi, donc, oui, c'est ça, et pour ma part, moi, qui applique aussi pas mal ce... mais j'ai aussi dû remettre en arrière sur un de mes enfants, justement, qui, elle, avait ce besoin de sécurité, justement. Pour elle, être en sécurité, c'était être dans le moule et dans le cadre.
Oui.
Et j'ai dû y revenir, justement, parce que je me rendais compte que je la mettais dans l'insécurité, moi, en voulant peut-être, justement, être dans le contraire.
Donc, voilà. C'est vrai. Oui.
Mais parce que moi, j'étais dans le contraire. Je voulais être dans le contraire. Ce qui est différent de ce que vous avez dit, Xavier. Hein, c'était vraiment, vous êtes dans une liberté. Et que moi, en fait, finalement, je limitais cette liberté-là.
Voilà. Oui, respecter ceux qui veulent rester dans le schéma.
Voilà,
qu'ils y soient bien, qu'ils ne soient pas bien. Peut-être qu'ils ne sont pas bien, mais s'ils font le choix d'y rester. Moi, j'ai eu l'exemple d'une de mes enfants qui est sortie du schéma classique. Et les deux autres suivants, même les trois autour, ont été un peu intrigués. Parce qu'un seul coup, elle se retrouvait à la maison. Elle ne faisait rien, entre guillemets, voilà. Et les autres avaient l'école, et donc elle est à l'école. Et d'un seul coup, il n'y a pas eu de demande de leur part de quitter le milieu pour ne rien faire, entre guillemets, d'ailleurs, parce que c'est pas rien faire. Mais, et ils sont restés dans ce truc. Et ça a été étonnant, d'ailleurs, de les voir. Moi, j'ai été étonné de les voir comme ça, se poser des questions, être inquiet, attiré par cette démarche de leur sœur. Et ne pas faire de demande et continuer à vouloir rester. Une qui s'y trouve bien, je pense, l'autre qui s'y trouve pas si bien que ça, mais qui n'a pas fait le choix de faire une demande. La porte étant ouverte, ils sont restés là. Donc oui, je pense que voilà, il faut respecter ça. Pas les faire sortir de force, s'ils ne veulent pas en faire sortir, et ne pas les laisser s'ils font la demande.
Voilà. Bon. Eh bien, moi, je remercie pour votre ouverture. Donc, je vous rappelle deux livres, Le don de dyslexie et Le don d'apprendre de Ronald Davis. Et puis voilà, et donc, Xavier, je vous remercie beaucoup pour votre accueil, pour votre disponibilité.
Eh bien, merci, Franck, d'être venu me chercher. Et c'était avec grand plaisir que j'ai partagé ce sujet et une partie de ma vie avec vous.
Merci, Xavier.
Merci, Franck.
Au revoir.
Au revoir.